La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. C'est l'un des endroits les plus courus de l'Hexagone. Un lieu d'influence et de réseau où peuvent prendre place uniquement 242 personnes. Un endroit qui intrigue et que le mensuel Capital nous présente sous toutes les coutures, une enquête de Bruno Godard sur les secrets de la loge VIP du PSG. Il s'agit des salons privés du Parc des Princes, dans lesquels, paraît-il, rêvent d'être invités des dizaines d'acteurs, de sportifs, de chanteurs et d'hommes politiques. Des journalistes peut-être aussi. Nicolas Sarkozy y a son fauteuil attitré, juste à côté de celui du président du club, Nasser Al-Khelaifi. Et pour certaines rencontres, assure la direction, il nous arrive d'avoir plus de 1000 demandes d'invitation. Car ces places-là ne sont donc pas commercialisées, non. On y est convié par le seul fait du prince Nasser. C'est ainsi qu'on a pu apercevoir dans la loge quelques stars planétaires. Rihanna, Leonardo DiCaprio ou encore le couple Beyoncé et Jay-Z venus assister à un PSG Barcelone. Alors bien sûr, l'ambiance n'a rien à voir avec celle qui règne ailleurs dans le stade. Ici, pas de drapeau ni même de chants de supporters hystériques. Les spectateurs sont priés de se tenir. Les écharpes bariolées et les maillots de club sont également proscrits. Oui, il y a moins d'ambiance, mais personne ne me dérange pendant le match pour un selfie. Se félicite un acteur célèbre, invité très régulièrement. Dans ce club très fermé, on croise aussi des grands patrons, des vedettes de la télé, ou encore les rejetons de certains élus politiques. Et puis, il en est également qu'ils ne sont plus conviés. C'est le cas notamment de Rachida Dati. Elle passait son temps à envoyer des textos et ne s'intéressait pas au match, dénonce un habitué. Quant à Nathalie Kosciusko-Morizet, elle ne vient plus non plus. Elle a, dit-on, été vexée. C'est qu'on ne lui attribue pas une place de choix aux côtés du prince Nasser. Du reste, certains supporters historiques du club ont aussi été relégués. C'est le cas du chanteur Enrico Macias, plus vraiment à la mode et qui doit désormais se contenter des tribunes VIP payantes, nettement moins prestigieuses. Mais là, au moins, il y a de l'ambiance. Cela dit, le mensuel ne s'intéresse pas uniquement à l'économie du football. Dossier à lire aussi sur l'élection présidentielle avec un long papier, une enquête de Philippine Robert qui décrypte les principales propositions des candidats.
Oui, selon Capital, le pire programme économique est celui de Marine Le Pen.
Avec Marine Le Pen, la France serait condamnée à la ruine, affirme le mensuel. Non seulement la sortie de l'euro détruirait des emplois, pas moins de 500 000 emplois en 15 ans, et dans le même temps, la dette du pays pourrait augmenter de 30 milliards d'euros. Quant au patriotisme économique proposé par la candidate du Front National, une contribution sociale de 3% sur les importations, ce patriotisme économique ferait lui flamber les prix et dès lors fortement baisser le pouvoir d'achat des Français. Autre analyse à lire cette fois dans Challenge. Analyse d'une autre conviction du Front National, l'immigration économique ferait baisser les salaires. Or, si l'on en juge par les chiffres que publie cette semaine l'hebdomadaire, ceci est totalement faux. La vérité, c'est même l'inverse. Les différentes vagues d'immigration en France ont toujours fait augmenter la quasi-totalité des salaires. Cela dit, ce matin, c'est la gauche qui fait la une dans les journaux, dans le journal du dimanche. Un dossier de 3 pages consacré au candidat de la France insoumise. La percée Mélenchon, titre l'hebdomadaire. Dans les différentes enquêtes d'opinion, il distance désormais très largement Benoît Hamon et il prétend maintenant rattraper François Fillon selon un sondage commandé par le JDD. Il serait d'ailleurs aujourd'hui l'homme politique qui incarnerait le mieux les valeurs de la gauche et il a fortement gagné en crédibilité. De plus en plus d'électeurs estiment qu'il a la stature d'un président de la République. Je deviens une figure rassurante, commente l'intéressé, reconnaissant qu'il se passe quelque chose autour de lui. En l'occurrence, dit-il, la nature de ma candidature a changé. Et demande-t-il toujours à Benoît Hamon de le rejoindre ? Non, répond-il, je ne m'occupe pas de lui. Je ne veux pas être dans une bataille de bac à sable entre deux personnes qui se disputent le même seau. Et puis les électorats ne s'additionnent pas. Vous en avez eu la démonstration avec Benoît Hamon et Yannick Jadot. Additionnés, ils devraient être à 19%. Et finalement, ils se sont divisés par deux. Benoît Hamon, lui, c'est dans Le Parisien qu'il s'exprime. Citation à la une, Macron n'est pas de gauche. Dans l'interview qu'il a accordée au journal, le candidat du PS revient sur l'unité impossible avec Mélenchon, mais il renvoie, lui, la responsabilité sur son concurrent. Au départ, Mélenchon disait que le rassemblement ne pouvait se faire à cause de Manuel Valls. Il n'y a plus Manuel Valls, pourtant c'est encore non. Puis il file ensuite la métaphore nuptiale. Aujourd'hui, peut-on se marier avec Jean-Luc ? Civilement, nos cœurs sont déjà pris, mais pour le reste, je travaillerai toujours à l'unité. Sinon, côté programme, Benoît Hamon précise que son revenu universel d'existence est d'abord une incitation à travailler. Il préconise en outre que les élus, dès lors qu'ils sont élus, ne puissent pas toucher de revenus complémentaires. Et puis, il indique que pour lui, on ne peut pas dire que la France ait vraiment un problème avec l'immigration.
Il apparaît en revanche qu'en Hongrie, il y a un énorme problème avec les réfugiés.
Un énorme problème avec tous ceux qui fuient la guerre et la misère de leur pays afin de rejoindre l'Europe. Pour preuve, le récit terrible de Florence Labruyère dans Libération ce week-end. Avec les migrants, les pratiques de la police hongroise frisent la torture. Témoignage de Zahrar, pakistanais de 23 ans, qui a tenté plusieurs fois de franchir la clôture hongroise. Un grillage de 4 mètres de haut, équipé de caméras thermiques et de détecteurs de mouvement. Les passeurs cisaillent le grillage, raconte-t-il, mais chaque fois, les policiers hongrois nous rattrapent et chaque fois, ils nous rouent de coups et lâchent leurs chiens sur nous avant de nous repousser en Serbie. Les associations humanitaires présentes sur place confirment. Elles ont constaté des plaies ouvertes à la tête, des hématomes causés par des coups de matraque et des morsures de chiens sur les bras, les mains et les jambes. Plusieurs centaines d'agressions auraient eu lieu cet hiver, en janvier et en février. Et alors qu'il faisait moins 20 degrés dehors, des hommes se sont même vus confisquer leurs vêtements et leurs chaussures. Puis on leur a versé de l'eau sur le corps avant de les forcer à marcher tout nus dans la neige, et ce jusqu'en Serbie. La violence comme outil de contrôle des frontières. Mais ces paroles contre paroles, Viktor Orban, le président de la Hongrie, nie catégoriquement l'existence de tels incidents. À l'étranger toujours, bien plus anecdotique mais pas inintéressant, une commune du Japon propose des ristournes sur les pierres tombales aux anciens qui acceptent d'arrêter de conduire.
Et c'est à lire à la page Tendance de Courrier International.
Et ça se passe dans une ville du centre du Japon, dans la préfecture d'Aichi, où 13% des accidents de voitures mortels sont causés par des conducteurs de plus de 75 ans. Parfois parce qu'ils ont confondu la pédale de frein et l'accélérateur, parfois parce qu'ils ont activé la marche arrière par erreur, une situation suffisamment inquiétante pour qu'un étrange accord soit passé entre la police et une maison de pompes funèbres. Cette dernière propose donc des remises de 15% sur les obsèques et les ornements funéraires à tous ceux qui viendront rendre au commissariat leur permis de conduire, un donnant-donnant, inspiré par le succès d'une initiative similaire dans la ville d'Osaka. À propos de conduite et de mauvaise conduite, Moto Magazine a mené l'enquête sur la privatisation des voitures radars en France. Des véhicules banalisés, chargés donc du contrôle des excès de vitesse et gérés en lieu et place des gendarmes par des sociétés privées. Selon le mensuel, des marchés juteux sont en cours de négociation en France, des marchés juteux et opaques, le montant des amendes devenant une manne pour les opérateurs. Du reste, ce faisant, l'État délaisse l'une de ses missions régaliennes, celle du contrôle routier. Pour Moto Magazine, il s'agit d'un scandale d'État. Enfin, à propos de scandale, la revue Néon nous apprend que nos ascenseurs pourraient être des imposteurs. Imaginez la scène, lundi, demain matin, vous pénétrez dans l'ascenseur qui doit vous amener à votre bureau et rapidement vous appuyez sur le fameux bouton sur lequel on peut lire « fermeture des portes ». Votre objectif, faire vite et surtout ne pas subir l'haleine et la conversation de Bernard de la Compta qui vous suit d'une dizaine de mètres. Mais les portes ne se referment pas. Vous insistez mais ça ne marche pas. Inutile de vous acharner, explique le mensuel. Ce bouton fermeture des portes est peut-être simplement un faux. En effet, dans de très nombreux ascenseurs, ce dispositif est factif. Ceci dit, ces boutons placebo ne sont pas totalement inutiles si l'on en croit une psychologue américaine interrogée sur le sujet par le New York Times. Les boutons fermeture des portes, même s'ils ne fonctionnent pas, font, dit-elle, du bien au cerveau en lui donnant le sentiment de garder la main. Or, l'impression de contrôle est très importante. Cela permet de diminuer le stress et d'augmenter le bien-être. Conseil donc, si vous êtes stressé, trouvez un ascenseur et appuyez sur les boutons.
Quand est-ce qu'on prend l'ascenseur ensemble, Frédéric Pommier, Pierre Veille, oui. À tout à l'heure. Merci Frédéric Pommier.